Tous les historiens ont conclu que c'était à partir du XVIIIe siècle, avec l'émergence des États-nations plus ou moins séculaires, que la rigidité des différences de sexe était renforcée, était plus forte qu'avant. Et ça, c'est à cause de la séparation des sphères privées, publiques, et tout qui en suivait là-dessus. Donc, c'était privé, public, foyer, marché, religion, politique, femme, homme.
J'ajouterais que c'est non seulement les États-nations, mais c'est les démocraties. C'est-à-dire que c'est l'idée démocratique qui est en elle-même, il me semble, intrinsèquement contradictoire. C'est-à-dire les théoriciens de la démocratie, ils mettent, enfin, même des gens comme Spinoza, pour qui j'ai la plus grande admiration, ils expliquent quelque part, quand ils démontrent, enfin, tous les mérites de la démocratie, bien, mais que les femmes, quand même, elles sont... Enfin, c'est toujours les mêmes arguments, à la fois trop fragiles et trop fortes et trop séductrices pour pouvoir participer au pouvoir. Mais inversement, là où il n'y a pas de démocratie, les femmes peuvent être dans des positions de pouvoir parce que, alors moi je suis sociologue, je ne suis pas historienne, mais si on se réfère aux catégories de Max Weber, c'est-à-dire à la légitimation, quand on passe par d'autres formes de légitimation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la légitimation traditionnelle, c'est-à-dire le transfert du pouvoir, l'héritage d'un pouvoir héréditaire, les femmes peuvent être dans des positions extrêmement dominantes. Enfin, bon, il y a eu Catherine de Russie, il y a eu Marie-Thérèse d'Autriche, il y a eu la reine Victoria. Je veux dire que donc il y a vraiment c'est l'État moderne avec sa rationalité, et il y a aussi des grands personnages charismatiques dans un texte que je suis en train d'écrire. Je suis revenue par exemple sur ce personnage extraordinaire de Lala. Fatma Soumer en Algérie, qui était une mystique et puis une résistance, une femme à la fois qui était mystique mais qui combattait les armes à la main, la colonisation française. Et là, il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'il y a toujours eu reconnaissance de ce charisme des femmes aussi. Donc, c'est vraiment il me semble, c'est la contradiction interne à la démocratie, mais je dirais comme John, qui à la fois exclut les femmes parce que, et en même temps donne des arguments de principes au nom desquels les femmes vont pouvoir revendiquer l'égalité. C'est ça qui est très contradictoire. Sa contradiction.
Très intéressant. Oui.
Oui.
Je prends les écrits de Claude Lefort qui parlent de l'incertitude, l'indétermination de la démocratie. Parce qu'avec le roi, il y avait le corps de roi qui était en même temps... le pouvoir, la nation, etc. Avec la démocratie, il y a des abstractions. Il y a nation, représentante, individu, mais il n'y a pas un corps qui incarne la politique, le pouvoir. Donc, il y a toujours cette incertitude, et les frères de la démocratie ont pris... l'idée de genre, d'un genre naturel, d'une différence entre hommes et femmes biologiques, pour justifier leur pouvoir masculin. Et donc, c'était à cause de... Et donc, en même temps, ils ont fixé l'idée qu'il y a cette différence naturelle entre hommes et femmes. Donc, il y avait, et je parle là-dessus dans le livre, il y a une construction interconnectée de la politique et du genre. La politique regarde le genre comme justification pour le pouvoir masculin dans les démocraties. Et en faisant ça, il fixe l'idée que le genre est la différence naturelle, biologique, entre hommes et femmes.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans ton livre aussi, c'est que tu parles aussi de la race. C'est-à-dire que la race est inventée au même moment, pratiquement. C'est-à-dire les différences dites naturelles pour justifier la domination. Et ce sont les grandes inventions de la fin du XVIIIe siècle, hein, et qui sont la modernité. Alors, toute la critique décoloniale en ce moment montre justement qu'il y a quelque chose, il y a un moment là qui est... Oui, où ça commence. Enfin, moi je dis que c'est en même temps tous les enfermements, c'est-à-dire qu'on crée les prisons, et on enferme les femmes dans les maisons, on enferme les ouvriers dans les usines, oui, et on justifie tout ça, les esclaves dans les plantations, et on justifie tout ça par des différences de nature, parce qu'il y aura aussi les mêmes discours aussi sur les, tu as travaillé, hein, sur les ouvriers, oui, sur l'état des ouvriers, l'état congénital.
Comme Durkheim, c'est les différenciations qui est très important entre eux et nous, femmes, hommes, noirs, blancs, ouest, orient, civilisé, non civilisé, et ça continue de produire des effets de la différence, de discrimination, des inégalités de pouvoir. Etc. Oui, c'est un genre. Moi, je crois qu'il faut parler d'un genre racialisé. Ça veut dire que nos femmes blanches, les femmes blanches, elles ont une espèce d'égalité. Surtout, elles sont plus civilisées que les femmes noires. Et avec le contraste entre blanc et noir, civilisé et non civilisé, on prend le genre comme moyen de distinguer entre noir et blanc, entre les races.
Vous parliez de tout ce qui est lutte décoloniale, vous êtes spécialiste de ces questions-là. Finalement, aujourd'hui, ce que je dis souvent, hein, ce qui challenge un peu la République et qui la pousse à se mettre au diapason de ces valeurs, ce sont ceux qui subissent finalement, donc les femmes, les minorités ethniques, etc.
Comment on définit l'humanité? Moi, enfin, il y a une formule, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a employé, le premier ou la première, mais moi je reprends souvent, c'est la colonie, c'est l'envers de la République. Mais la République, il y a effectivement les valeurs de la République qui sont les valeurs de ceux qui sont reconnus comme véritablement humains, et puis à ceux qui sont de moins en moins humain.
Moins
évolué, moins humain, et puis pas du tout humain, donc on peut massacrer, qui sont des instruments et des animaux. Hein. Donc c'est bien comme ça qu'on traite en fait les Noirs, hein, les Africains qu'on emmène, qui sont pris comme esclaves. Par exemple, les femmes, pour justifier l'allaitement, il y a plein de textes au début du 19e siècle où on compare les femmes à des vaches. Hein. Comme, de toute façon, les femelles allaitent, donc les femmes doivent allaiter. Donc les femmes sont considérées comme des femelles. Donc elles sont un peu moins, justement, tu en parles très très bien, elles sont réduites à leur corps, et ce sont les animaux qui ne sont en principe que des corps. Hein. Il y a ces degrés d'humanité. Donc la République, ça reste un petit peu... Enfin, il me semble que ça reste... Enfin, les références à l'Antiquité sont très significatives. C'est-à-dire... Pierre Vidal-Naquet disait que la démocratie athénienne, qui sert toujours de modèle à mes collègues philosophes pour l'aide de la démocratie, c'est un club d'hommes. Hein. Mais c'est effectivement la République ou la démocratie sont réservées à un petit groupe qui sont les seuls à être reconnus comme pleinement humains. Et ensuite, on a un dégradé jusqu'à la déshumanisation totale. Et voilà, et le combat, et je crois que c'est le combat qui continue actuellement, me semble-t-il, moi c'est celui que je mène autant que je peux, c'est de faire reconnaître, comme disait Platon, tous les bipèdes sans plumes pour des êtres humains à part entière, pour des créatures du bon Dieu, si je puis me permettre.
Est-ce que dans votre ouvrage qui va paraître en octobre en version française, il est question du voile, c'est une fausse question. Dans quelle mesure le sexe et le sécularisme abordent cette question du voile? Parce que bon, vous aviez parlé d'une obsession française. Comment le voile apparaît dans votre analyse? Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il révèle de la société française et de son rapport aussi au genre, au sécularisme, parce qu'on ne fait pas forcément le lien tout de suite entre sexe et laïcité. Mais voilà, sur la question du voile.
Sur la question du voile, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Je crois que la question, la société française a ciblé le voile comme symbole de l'oppression des femmes par l'islam. Et je crois que en faisant ça, ils ont, c'était possible de ignorer les problèmes au centre de la société même, les inégalités hommes-femmes. Soi-disant blanc, les inégalités. Ce matin, dans le Libération, il y avait un article sur la question de femmes en politique, les femmes qui disparaissent du monde politique parce que c'était organisé autour des hommes et qui n'ont pas cédé ou qui n'ont pas... accepter l'idée qu'il y a d'autres rythmes de la vie des femmes et des choses comme ça. Donc, je crois que le voile est devenu une moyen de couvrir les problèmes dans la société même et de déplacer tous les problèmes à l'islam et aux musulmans. Je crois que le voile fonctionne comme ça.
Dans ton livre, j'avais trouvé une idée de plus, moi que je cite toujours, parce que je trouve que ce livre était absolument extraordinaire. Effectivement, c'est 2007, donc on s'était rencontrés juste, il allait paraître. C'est l'idée de la sexualité déjà, c'est-à-dire que le voile rend visible ce qui est dénié dans l'espace. Alors peut-être que tu pourrais mieux l'expliquer, non, l'exprimer quoi. Voilà, non mais moi c'est tel que je t'ai lu et que je n'arrête pas de te citer chaque fois qu'on me demande de parler de ça, parce que je trouvais que c'était vraiment une idée très très forte. C'est-à-dire qu'on est dans l'espace, le sexe, mais tu reviens un peu sur cette idée, le sexe et la sexualité est totalement maîtrisée, contrôlée. Alors, moi, il me semble, peut-être que je vais plus loin que ce que tu dis, c'est à la fois extrêmement visible parce que c'est devenu, on est dans la démocratie sexuelle, comme disait Éric Fassin, et qu'en même temps, ça ne doit pas se voir. C'est-à-dire que le désir ne doit pas se manifester. Donc, il faut pouvoir montrer ses seins ou ses fesses et que les hommes restent, par exemple, totalement indifférent, et s'ils ne restent pas indifférents, c'est que là vraiment ils sont malades. Donc le voile, enfin, c'est ce que tu disais, mais moi je trouvais que moi je n'avais pas du tout pensé à ça, et c'est après avoir lu ce livre magnifique de John Scott que j'ai compris, c'est que le voile met en évidence le fait qu'il y a du désir et de la sexualité et que justement il faut faire face, il faut faire avec, il faut le voile rend visible, c'est-à-dire que effectivement comme tu le dis très bien aussi, ça dans ça c'est dans le nouveau livre hein, c'est que demandent les, c'est que finalement dévoiler ou découvrir le corps, c'est le rendre accessible au désir masculin, et voilà, et il y a quelque chose que le voile le signifie de façon quasiment négative. C'est comme ça que je t'ai comprise. Je sais pas si et ça j'ai trouvé que c'était, moi pour moi ça a été vraiment, c'est pour moi c'est une idée absolument
et
lumineuse.
C'est une question de l'inconscient politique française. Mm-hmm. Je crois que c'est ça, que la réaction au voile, il y a des réactions conscientes, un moyen d'oppression des femmes, etc. Mais l'autre, c'est que Sonia a cité, c'était l'idée que la sexualité est un problème adressé par les musulmans d'une manière complètement différente que les Français, mais un problème. Et les Français nient l'idée que le sexe et la sexualité posent problème.
D'ailleurs, dans Politique du voile, vous parliez des termes qui ont été choisis dans la loi de 2004 avec le jeu sur ostensible ou ostentatoire. Et justement, le fait que ostensible, ça disait en gros On a accepté que ça soit voyant, mais pas trop, qu'il fallait trouver la bonne... Et le voile est tellement voyant que justement, ça rejoint ce que vous dites, quoi. Ça rappelle ce rapport à la sexualité.
Oui, c'est d'accord. Ça, oui.
Qu'on fait semblant de ne pas voir, alors du coup, ça ressort sous les formes d'agression, évidemment, parce que ça existe. Enfin, on ne peut pas faire que ça n'existe pas.
Oui. Lecture croisée aussi sur la question du féminisme, ses transformations, en tout cas en France, et notamment avec l'arrivée de nouvelles générations de femmes musulmanes qui peuvent être voilées ou pas, mais qui aussi amènent, enfin, dans le mouvement féministe.
Moi, je pense que l'arrivée de cette nouvelle génération était magnifique. Et moi, j'étais moved, j'étais touchée, j'étais émouvant. C'était émouvant de lire Voile et préjugés. Parce que c'était là que, et comme j'ai dit dans l'introduction, la préface que j'avais écrite pour la politique du voile, c'était... des vraies Françaises qui donnent des leçons aux autres, donc qui citent Rousseau, Locke, qui citent les grands philosophes des Lumières en insistant sur l'idée d'égalité, sur la fin des discriminations, qui citent et mettent leur doigt sur le problème, les problèmes de racisme, de discrimination, etc. Et il y a une génération des femmes, la génération des femmes plus âgées, ils ne sont pas homogènes. Il y a à un côté Françoise Gaspard, Christine Delphi, merci Christine Delphi, et des autres. Et à l'autre côté, il y a Elisabeth Badinter et Irène Théry et des autres qui ne sont pas d'accord sur la question de féminisme ou féminisme en pluriel et qui sont en désaccord avec moi, qui m'attaquent chaque fois que je dis quelque chose sur la question du féminisme, d'islam, etc. Mais je crois que cette nouvelle génération est très importante pour continuer un certain mode de critique de la société et des inégalités dans la société française.
Justement, est-ce que pour vous, dans quelle direction elle regarde, quoi, si...
Il y a un féminisme mainstream qui est quand même en perte de vitesse parce que moi, parmi mes collègues, un certain nombre de collègues et même d'amis qui hésitaient beaucoup par rapport à la question du voile, il y a des évolutions, il y a des transformations et il y a quand même une certaine ouverture maintenant chez certaines, hein, pas chez Elisabeth Badinter, mais elle, c'est le visionniste, je veux dire qu'il y a d'autres composantes il y a quelque chose quand même. Quelqu'un comme Eleni Varikas par exemple a beaucoup bougé sous mon influence, parce que j'adore Eleni et qu'on a énormément discuté, et elle commence à bouger, mais c'est vrai que les nouvelles générations, alors pas toutes, hein, parce qu'il y a, je pense qu'il y a quand même, il y a à la fois la question de la classe et la question de la race, hein, parce que c'est la vieille génération. Je sais pas s'il y a un mot, moi je dis, il y a le mot anglais womanist, c'est-à-dire des femmes qui défendent les intérêts des femmes à l'exclusion de, en ne prenant pas du tout en compte ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Elles ont mené d'abord des luttes pour le pouvoir à l'intérieur de leurs propres institutions, et finalement elles passent complètement outre toutes les questions des questions de classe ou les questions de race, pour aller très vite. Mais alors c'est vrai que là et c'est quand même elles qui continuent à être dominantes dans les médias. Parce que c'est quand même lié à la vieille conviction française de la mission civilisatrice, me semble-t-il. Mais il y a des contradictions internes profondes. Moi, je pense aussi que très profondément, elles ne réfléchissent pas du tout sur la question de la domination. Enfin, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai la question des femmes intéressées comme modalité, comme forme de domination, mais toujours croisée avec les autres. Alors que dans tout ce courant, on a considéré que les femmes était une classe opprimée en tant que telle, et comme dans beaucoup de prises de pouvoir, on demande le pouvoir au nom de la, en tant que victime. Voilà. Mais c'est vrai que c'est en train de ça bouge, et qu'il y a toute cette nouvelle génération qui oblige à poser les questions autrement. Mais c'est encore
difficile.
C'est encore difficile. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine évolution, mais parce qu'il y a une jeune génération qui pousse, hein, et qui sont bien obligés d'en tenir compte, sinon ils vont se trouver complètement isolés.
Il y a eu en 2004 la loi contre le voile à l'école. Ça a marqué une rupture, et il y a eu une rupture récemment. Ça a été le mouvement MeToo, qui a remis aussi quelque part un peu les pendules à l'heure par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport de l'égalité, le rapport au genre dans les démocraties, qui est en fait un rapport qui est fondé sur l'inégalité, quoi. Qu'est-ce que vous inspire ce mouvement, en mettant ça en perspective avec vos travaux de recherche, hein, sur l'islam, sur toutes ces questions? J'ai l'impression qu'il y a eu un renversement total.
Non, parce que ça fait longtemps qu'on dénonce ces choses. Dans le mouvement des femmes, voilà, des années 70, on a commencé par dénoncer le viol, parler des violences, le clash, ce groupe qui dénonce le harcèlement sexuel à l'université. Moi, c'est Colline Cardy, qui a été autrefois mon étudiante, qui maintenant est maître de conf à Paris depuis pas mal d'années déjà, qui l'avait fondée. Donc c'est pas tout récent, hein. Donc s'il y a quelque chose
qui, enfin,
je pense que c'est bien que ça existe, mais je pense que en même temps, mais c'est pas moi, c'est Vincent Lindon qui était le comédien qui était interviewé à la radio il y a quelques semaines, quand c'est, il a dit d'accord, mais il faudrait aussi demander l'égalité de salaire.
Enfin, donc,
parce que si le harcèlement est possible, c'est parce que bon, quand on dépend financièrement, quand on dépend pour son boulot d'un homme, eh ben, on risque de subir ses avances et plus que ça. Donc, je pense qu'il y a des questions fondamentales qui ne sont pas posées, là. C'est-à-dire que c'est comme le disait John, c'est très bien, mais on ne changera rien si, justement, les femmes, les femmes politiques, même les femmes de droite, partent, hein. Donc, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a, là, je ne sais plus, la leader des Verts, je ne sais plus, Cécile Duflo, il y a Christiane Taubira. Donc toutes ces femmes qui existaient vraiment, tout d'un coup, elles sont poussées vers la sortie. Et autour de Macron, il n'y a que des hommes, hein. Donc les femmes, enfin, il y a quelques femmes à Libye comme ministres, mais les conseillers à l'Élysée ne sont tous que des hommes. Donc je pense que tant que sa structure de pouvoir ne sera pas changée, puis même au niveau de la vie quotidienne, il n'y a pas de partage des tâches, il y a toujours 20% environ d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. C'est des choses d'une platitude incroyable. Il y a plus de chômeuses que de chômeurs, bon. mais le travail est en partiel, qui est toujours valorisé parce que ça permet de se partager entre les tâches domestiques et entre la famille et le travail. Donc c'est ce qu'on dit partout. On l'a redit au moment du 8 mars. Moi, j'étais en colère comme je sais pas quoi. Donc, du coup, c'est vraiment prendre un effet pour la cause. Et moi, ça me gêne beaucoup. Hein. Donc, effectivement, dans le principe, je peux pas ne pas être d'accord, mais je crois que ça, encore une fois, ça masque, en parlant de sexualité, ça masque des structures d'inégalité fondamentales.
Oui. Il y a le risque de représenter les femmes comme des victimes,
oui.
et sans la possibilité d'agir, parce que beaucoup des histoires qui était raconté, c'était « Oh, j'ai pas le pouvoir, c'était impossible d'agir, de répondre, etc. » Et c'est ça, mais c'est ça le risque. Je crois que c'était très important d'avoir l'exposé de comment s'opère la culture masculine. Et de montrer de montrer l'inégalité des pouvoirs au travail, dans les rues, même dans le foyer domestique. Mais en même temps, le risque de présenter les femmes comme des victimes qui ne peuvent pas réagir, qui ne peuvent pas prendre un certain pouvoir, c'est ça un problème qui présente le mouvement MeToo.
Là, en France, il y a pas mal de grèves, il y a des blocus étudiants. C'est les 50 ans de mai 68, oui. Donc ça, forcément, il y a une résonance. Et en même temps, je m'interroge sur l'héritage de mai 68, puis il y a eu la révolution sexuelle derrière.
Le dernier chapitre de mon livre est sur ça. Et je dis que l'idée de la liberté sexuelle maintenant signifie une égalité sans limite. Et maintenant, si on veut parler d'égalité, on parle de la liberté sexuelle au lieu d'inégalité économique, politique, etc. Donc, cette idée est devenue au centre de la discussion des droits des femmes. Et je crois que c'est un aspect difficile à accepter comme synonyme d'égalité.
Moi qui suis une vieille 68, quoi, qui a fait 68, hein. Donc c'est...
Mais c'était important, mais c'était pas...
Mais la liberté sexuelle, c'était pas ça l'objectif.
Non, enfin,
on était dans l'utopie, on voulait... En fait, 68, c'est peut-être la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on voulait faire la révolution, c'est-à-dire transformer complètement les rapports de production, enfin, les zadistes, voilà, eux, ils sont bien plus dans la ligne de mai 68. On allait... Enfin, moi, j'étais à l'époque... plus ou moins maoïste, donc on voulait,
comme tout le monde
voulait abolir la différence entre travail manuel, travail intellectuel. On était contre les hiérarchies, on a remis en cause tout le rapport à la culture, tout le rapport au savoir, tout le rapport à la domination. Donc c'était pas du tout, alors la liberté, ensuite c'est devenu, effectivement, il y a une contre-révolution, il y a eu le mouvement des femmes qui était pas un mouvement pour la liberté sexuelle, mais qui était quelque chose qui était un mouvement pour simplement tout ce qu'a dit John, hein, c'est-à-dire être traité comme un être humain à part entière. C'est les corps qui sont devenus des objets de consommation dans le néolibéralisme, hein, et c'est bien plus, à mon avis, c'est bien plus que ça. Et mais avec une angoisse, parce que si on nous dit que, je veux dire, la liberté, enfin, c'est aussi surtout un discours sur la liberté, à mon avis, c'est un discours très très très, enfin, si on n'a pas la possibilité concrète de la liberté, comme tu le dis, c'est-à-dire l'égalité, hein, tu le dis très très bien dans ton livre, ben, c'est terriblement anxiogène, parce qu'on se demande que faire de cette liberté. Oui.
Je viens de lire et de faire un compte rendu sur un livre qui est sorti de l'édition Amsterdam qui s'appelle pour un féminisme de totalité. C'est des analyses plus tard marxistes, du néo-marxisme, et les essais sont ils varient du point de vue d'intérêt, mais il y a quelques essais qui parlent de la question de reproduction et de sexe et sexualité comme un aspect de la des modes de reproduction. Et ça, j'ai trouvé très intéressant de penser cette question de sexualité. Il y avait un essai sur les travailleuses de sexe qui dit que elles sont des travailleurs payés, mais les femmes dans un mariage, elles sont des travailleuses non payées de sexe. Mais c'était très, très intéressant de penser la question de sexualité en termes de production, reproduction, reproduction de force de travail, de la famille, de la force ouvrière, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de challenge, de faire défi à ces idées de liberté sexuelle, C'est liberté qu'on a attendue pendant des années et qui est la fin d'un certain féminisme politique.
Moi, je dirais aussi, comme John, moi, c'est le mouvement des femmes, c'est-à-dire que c'est une demande. Et puis, c'est le mouvement des femmes m'a amené à réfléchir sur ma propre expérience. Le premier grand article que j'ai fait sur l'amour, voilà, c'était parce que je sortais d'un énorme chagrin d'amour. J'avais essayé de comprendre et de théoriser ce que j'avais vécu et pourquoi j'avais vécu ça. Et à partir de là, donc c'était quand même... Mais on était obligé, enfin en tout cas en France, mais toute Michel Perrault, etc., on ne pouvait pas faire de thèse sur les femmes. C'était absolument... Donc il fallait de toute manière, pour entrer dans l'institution, se faire adouber... Comme personne sérieuse, parce que déjà, il y avait pas mal de handicaps. Et Christine Fauré, par exemple, moi j'étais à l'époque à la commission du CNRS, elle avait entrepris de travailler sur les femmes, donc du point de vue historique, je dis historique parce qu'un membre de la commission a fait un jeu de mots entre historique et hystérique. Donc c'était, voilà, c'était très 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 difficile, et ensuite on a fait un travail de transmission, c'est-à-dire qu'on était quelques-unes qui avions réussi à franchir le cap, et nous avons tiré des femmes derrière nous pour les faire entrer dans l'institution universitaire. Donc, alors, le bilan, moi, c'est très, très exaltant. Je veux dire, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une découverte progressive, mais ça a toujours été des hasards, parce que le Moyen-Orient, moi, je militais en faveur des droits nationaux, des droits politiques des Palestiniens, et c'est Leïla Chaïd qui m'avait dit, mais pourquoi tu ne travaillerais pas sur les femmes? Et ça, c'était effectivement une espèce de propagande, parce que les Palestiniennes, c'était la vitrine. Mais j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis bon, je me suis rendu compte que tout le discours de propagande n'était pas totalement adéquat à la réalité vécue. Et puis voilà. Donc c'était, et ça m'a passionnée. Mais c'est une suite de... Ce sont des circonstances un peu extérieures, mais après coup, je trouve que c'est vraiment des expériences formidables, hein, parce que ça m'a extraordinairement enrichi. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai pu continuer à avancer. Et puis maintenant, il y a ce qui me passionne le plus, c'est le féminisme décolonial, c'est-à-dire mettre complètement en cause, questionner le mon vécu de femme semi-blanche, hein, parce que je ne me vis pas comme véritablement blanche. Je me vis vraiment... J'ai la peau très blanche,
oui,
mais à l'intérieur, c'est pas très très blanc. Donc voilà, c'est très stimulant, hein, c'est quelque chose qui fait un bien fou. Moi, ça me fait vivre, hein, voilà. Je te dis simplement. Tu sais bien.
Et je crois que c'était très difficile aux États-Unis aussi, mais pas assez difficile qu'en France. Parce que la taille de l'État et aussi le nombre des universités privées, publiques, a créé la possibilité de faire des incursions, on dit, dans des espaces limités, mais en même temps très importants. Donc, c'était une expérience différente qu'ici. Mais moi, je me souviens, ici en France, il y a eu en 1975 ou 76, il y avait une table ronde à la Maison des sciences de l'homme avec les grands hommes de l'histoire sociale et quelques femmes. Il y avait Eric Hobsbawm, il y avait Thompson, il y avait Chartilly, il y avait, je ne sais pas, et beaucoup d'autres, et il y avait aussi Natalie Davis, Louise Tilly, et moi, Michel Perrault, et quelques autres. Et on a parlé de l'histoire des femmes pendant toute une journée. Les hommes nous ont regardés, ils ont entendu, mais en même temps, ils ont entré dans la conversation en citant les expériences de leur mère ou leur grand-mère. Ah oui, on a dit, ah, ma grand-mère a fait ça et ça. Et Louise et moi et Michel, on a regardé une à l'autre en pensant, oh, mais ça c'était quelque chose. À la fin, Thompson a demandé à Natalie Davis si elle veut faire la chasse aux archives. Et Nathalie disait, je préfère de penser de mon travail comme gathering, comme... Elle était glaneuse. Et ça, c'était hunters and guns. Pour moi, c'était le moment parfait de l'expérience. Mais je crois que pour nous, aux États-Unis, comme j'avais dit, c'était plus facile, mais en même temps, pas facile, parce que c'était la question d'être pris au sérieux. Si tu veux. Et au début, j'avais conseillé mes étudiantes de ne prendre pour une thèse de doctorat l'histoire des femmes. Il faut trouver d'autres choses à côté. Et puis après, avec un poste, etc., on peut faire l'histoire des femmes. En même temps, je crois que maintenant, j'avais une expérience il y a des années maintenant, mais avec la transformation de l'université dans un système plutôt coopératif qu'académique, ils cherchent des clients. Et si les clients veulent l'histoire des femmes, on va leur donner. Et il y avait l'ouverture à l'Université de Chicago dans les années 90, peut-être ou au début de ce siècle. Il y avait une grande ouverture d'un centre sur le genre. Et la première femme que j'ai rencontrée, c'était la dame qui s'occupe de fundraising, de rassembler des fonds. Elle m'a dit, nous, à l'Université de Chicago, veulent attirer les clients qui vont ailleurs si nous donnerons pas l'histoire des femmes, l'histoire de genre. Et pour moi, c'était un moment ambivalent, parce qu'en même temps, j'étais ravie d'avoir vu l'arrivée à Chicago qui a résisté pendant des années à l'histoire des femmes et du genre, et en même temps, d'avoir la justification être une espèce de commerce, une espèce de commerce, ou de, je sais pas, j'étais déçue en même temps. Et je crois que c'est ça un moment, ça continue aux États-Unis maintenant. Il y a pas mal de centres de recherche sur le genre, les femmes, qui ne sont pas assez critiques que nous étions au moment. Notre moment, c'était un moment de militante, plein de critiques. On a découvert des choses nouvelles, et c'était très important.